Bonjour à tous. Je vais vous présenter l'analyse de l'évolution des dépenses des établissements sanitaires publics et privés pour l'année 2009. Donc, vous avez ici le graphe qui vous présente l'évolution des recettes MCO, donc évaluées en date de soins, je dirais à la fin de l'année 2009 et sa comparaison donc avec 2008. Et donc, on observe assez rapidement une évolution très très dynamique de ces recettes. Le graphe vous décortique les évolutions selon plusieurs agrégats. Hein, le premier agrégat étant la partie séjour plus supplément journalier. L'agrégat bleu foncé, un peu plus foncé, c'est la partie activité externe, qui s'appelle le XT, mais donc c'est plutôt l'activité et consultation externe. Le bleu un peu plus clair, la partie médicaments et DMI. Et le bordeaux, la partie totale, donc qui là intègre l'HAD, hein, qu'on n'a pas isolé en tant que tel. Donc vous voyez que ces évolutions-là, donc c'est les évolutions des recettes MCO. Ce qu'il faut dire, c'est que entre 2008 et 2009, dans les tarifs, il y a eu quand même un changement de champ tarifaire assez conséquent lié, je dirais, au débasage pour transfert de certains crédits finançant la PDSH, la permanence des soins et la précarité. Et donc là, nous, on a neutralisé ces effets-là, c'est-à-dire que des recettes 2008, on a enlevé, je dirais, ce qui a été transféré en MIGAC en 2009. Donc c'est vraiment une évolution de recettes à champ tarifaire constant. C'est pas directement l'évolution telle que vous pouvez l'obtenir quand vous faites recettes 2008 contre recettes 2009. Donc une évolution assez dynamique, comme je le dis, on peut voir, hein, donc 4,5% sur le secteur ex-DG, 3,8% sur le secteur ex-OQN, soit sur l'ensemble des établissements sanitaires, une évolution globale de 4,3%, donc assez supérieure à ce qui peut être prévu dans le cadre des objectifs de l'assurance maladie. Si on se contente, je dirais, sur la partie séjour, y compris supplément journalier, là, toujours le même dynamisme, parce que vous avez 4,1% pour le secteur ex-DG, 3,2% pour le secteur ex-OQN, mais ce 3,2 intègre toute l'activité de la dialyse en alternative. Donc si on enlève un petit peu cette activité, on est sur une notion de plus 4,6%. Et donc ces évolutions sont marquées sur l'ensemble des établissements, mais plus particulièrement effectivement sur les établissements à but non lucratif et sur les CLCC. Donc ça, c'est pour la partie recettes. Donc ce qu'on a essayé de voir, nous, c'est l'analyse de l'évolution de l'activité en volume. Alors l'évolution de l'activité en volume, ça peut se mesurer de plusieurs manières, notamment par le nombre de séjours. Donc l'augmentation au nombre de séjours effectifs, c'est un indicateur, sauf que cet indicateur, cette mesure ne traduit pas le volume au sens où il ne tient pas compte de la lourdeur économique de chaque séjour. D'accord ? Donc quand on parle volume, on essaye de tenir compte du fait que le séjour est plus ou moins lourd, et donc on pondère chaque séjour par sa valeur monétaire. Donc la valeur monétaire étant le tarif auquel il est payé. Ce qui permet, quand on fait ce genre de mesure, d'estimer l'évolution de l'activité en termes de financement, et cela tient compte à la fois de l'évolution de l'activité en nombre de séjours, je produis plus de séjours, mais également de l'évolution de l'activité en structure, c'est-à-dire je peux ne pas produire plus de séjours, mais je peux avoir des séjours qui sont économiquement plus lourds, et donc j'ai un volume économique qui augmente. Et ce volume en structure, cette année, on l'a décortiqué, je dirais, pour partie, entre effectivement l'évolution tendancielle de la structure qui exprime vraiment la lourdeur de l'activité en termes de prise en charge et l'effet codage. Et donc notamment tout ce qui est évolution du codage des séjours avec les CMA. Et du coup, je vais vous présenter quelques graphiques qui présentent trois notions, hein. Donc ce qu'on a appelé évolution recette V11 2009 V10 2008, c'est le volume économique, d'accord ? Donc chaque séjour entre deux périodes est classé selon la classification en vigueur pour les périodes concernées et selon le tarif qui était en vigueur. Et on a décomposé cette évolution du volume économique en deux notions, l'évolution tendancielle de l'activité et ce qu'on a appelé, qu'on a suivi tout au long de l'année 2009, ce qu'on a appelé l'effet V11. Alors si on décortique, juste pour qu'on comprenne bien quelles sont ces notions, l'évolution tendancielle de l'activité, c'est on mesure l'évolution de la production de soins à classification constante entre deux périodes. Donc vous prenez l'activité 2008, je dirais codée en V10 et valorisée en V10, et vous prenez l'activité 2009 qu'on va grouper en V10 comme si la V11 n'avait pas eu lieu et qu'on va valoriser en V10. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, l'évolution tendancielle de l'activité. Et l'effet V11 d'une période donnée, c'est on est sur la même période, donc là sur l'activité 2009 par exemple, sur l'année 2009, et là cette fois on va mesurer l'évolution de la production de soins entre deux versions de classification différentes. Et donc là cette fois, vous prenez l'entièreté de l'activité 2009, vous la valorisez en V10 et vous comparez ces recettes à une valorisation en V11 sur vraiment la même période. Et donc c'est ce qu'on a appelé l'effet V11. Donc c'est le même séjour dont on affecte une pondération économique différente selon qu'ils soient en V10 ou selon qu'ils soient en V11. Et donc c'est quoi? L'effet V11 d'une période donnée, c'est bien en fait un effet codage, hein, qui est induit par la mise en œuvre de la classification, la V11, qui donne un poids important. Ça, je pense que les présentations qui vont suivre vont vous le faire toucher du doigt, à l'information médicale, et dès lors qu'en plus il y a une traduction financière, je dirais, de ce codage. Donc voilà, si on a regardé ça sur l'année 2009, donc sur 10 mois, puisque la V11 a été mise en place au 1er mars, donc mars 2009, décembre 2009, versus la même période, mars 2008 versus décembre 2008. Donc vous avez... On reprend le Bordeaux pour l'évolution globale, hein, des recettes. Et puis, vous avez en bleu la part de l'effet V11. Donc, vous avez un volume économique en forte croissance, hein, puisque le volume économique sur 10 mois 2009 est évalué quand même à 4,9% sur le secteur XDG, à 3,7% sur le secteur XOQN, soit ce qui représente sur l'ensemble des établissements 4,7% de volume économique, ce qui est relativement important. Et si on regarde justement la mesure de l'effet V11, le 4,9 du secteur XDG, il y a à peu près 2,8% qui s'explique lié à la différence, je dirais, entre la V10 et la V11. Sur le secteur XOQN, vous avez à peu près 2,1%. Et donc, vous voyez, il y a quand même quelques catégories d'établissements pour lesquels l'effet V11 est particulièrement élevé, que ce soit les CHR ou les établissements à but non lucratif, pour lesquels l'effet V11 atteint plus de 3% sur 10 mois d'activité. Donc ce qu'on a fait, nous, c'est ce que je vous disais, hein, Marion l'a expliqué, hein, dès le début de l'année, il y a une alerte qui a été posée par les établissements pour dire la V11 ne produit pas les effets attendus, donc on a été amené à faire ce suivi-là tout au long de l'année 2009. Et donc à regarder comment cet effet évoluait. Alors cet effet, par principe, il est nul en 2007. Puisque les tarifs, maintenant c'est bien connu, les tarifs de 2009 ont été construits sur la structure d'activité 2007. Voilà. Donc ça, il est nul en 2007, globalement, il n'y avait pas d'effet. Et puis, dès qu'on a eu les données d'activité 2008, qui sont des données d'activité V10, qui ont fait l'objet d'un transcodage en V11, on s'est aperçu que déjà, on avait un effet V11 positif en 2008, pour toutes les catégories. Et il a continué à s'amplifier tout au long de l'année 2009 en croissance. Donc je vous ai entouré sur le total des établissements, hein. Donc là c'est tout au long de l'année 2009 pour les deux types d'établissements XDG et XOQN. Et donc on a bien une poursuite et une amplification de l'amélioration du codage des informations médicales qui a pour conséquence inéluctable de modifier la structure d'activité, c'est ce qu'on va voir après, et du coup, en fait, de créer un effet volume économique important. Et effectivement, quand on regarde la répartition des recettes, V11, hein, sur 10 mois, donc vous avez en bleu ce qu'on pouvait observer sur les données d'activité 2008, et puis en Bordeaux, ce qu'on observe sur les activités 2009. Donc là, c'est effectivement assez lisible, à savoir que finalement, on a une baisse de la part du niveau 1 et une hausse de la part des autres niveaux, les niveaux 2, 3 et 4. Donc ce changement de structure d'activité, bien entendu, contribue à expliquer l'évolution de l'effet V11 entre 2008 et 2009. Et on a à peu près le même phénomène, je dirais, sur le secteur ex-OQN, donc plus entre les niveaux 1, 2, puisque effectivement sur ce secteur-là, les masses, l'activité est plus concentrée, je dirais, sur ces niveaux, mais on a également une baisse de la part du niveau 1 et une hausse de la part des niveaux 2 et 3. Donc voilà, en conclusion, donc là c'était vraiment sur la partie évolution des recettes. On a donc cette année 2009 est marquée par vraiment une évolution très dynamique du volume économique, et qui s'explique notamment par la poursuite, c'est ce qu'on a vu, et l'accélération de l'amélioration du codage des informations médicales qui ont induit, je dirais, un découpage de l'activité, notamment entre niveaux, différent de celui qu'on avait sur les données 2008 et 2007. Et donc là, je vais passer la parole à Alain Patrice, qui va vous montrer que quand on regarde l'analyse du codage, effectivement, depuis des années, le codage des informations médicales s'est continuellement amélioré.
Bonjour. Donc, l'année 2008, ce qui s'est passé en 2008 et entre 2008 et 2009 n'est que ce qui se passe entre deux années. Donc on a voulu voir ce qui s'est passé avant, d'autant plus qu'on avait déjà regardé, bien sûr, pour essayer de prévoir les tarifs et de savoir comment l'historique. Donc en fait, les graphiques qui sont présentés ici, nous avions fait déjà la même chose, sauf qu'on s'était arrêté au début de 2008. Donc mon objectif, c'est d'examiner l'évolution du codage des CMA de niveau 2, 3 et 4, et donc 1 quand il n'y a rien du tout, depuis 2002. Donc c'est purement descriptif, mais bien sûr ça doit se recadrer dans des objectifs divers, hein, la qualité des données, le calcul des tarifs, le suivi des dépenses, etc., ainsi que le suivi de l'effet des CMA, parce que si tout le monde dit que tout le monde est très malade, ça va avoir des effets éventuels sur les effets des CMA. Donc, pour repartir à 2002, on n'est pas obligé de faire un groupage V11, ce qu'on ne peut pas faire. Il ne faut pas demander à l'ATIH de le faire, puisque en V11, on n'a pas les tables pour le CEDAM. Donc, on est obligé de s'arrêter, quoi qu'il en soit, vers 2006. Donc, en fait, le critère, c'est on utilise les diagnostics associés. On fait comme un pseudo-groupage dans lequel on détermine le niveau du diagnostic le plus élevé, 1, 2, 3, 4, et on affecte au RSA son niveau le plus élevé. Donc la seule chose sur laquelle on a tenu compte, c'est les exclusions avec le diagnostic principal. Donc il y a quelques différences avec les vrais niveaux qui sont d'une part qu'il n'y a pas d'exclusion avec les GHM, qu'il n'y a pas d'effet d'âge et qu'il n'y a pas d'effet d'essai. Mais nous, là, ce qui nous intéresse, c'est bien uniquement un problème de codage. Est-ce qu'on code beaucoup les CMA de niveau 2, 3, 4 ? Voilà. On va examiner les effectifs en nombre de RSA par niveau. Niveau 1, c'est ceux qui n'ont aucune CMA de niveau 2, etc. Niveau 2, c'est ceux qui ont au maximum un niveau 2. Et on a pris uniquement les séjours qui ont au moins 2 jours, qui ont au moins 3 jours, puisque en dessous, ça n'intéresse pas le financier, puisque ça ne sert pas à payer. Donc c'est les plus de 2 jours. Et donc c'est un suivi entre 2002 et 2009. Alors 2009 est presque complet, c'est les dernières données qu'on a, mais il manque éventuellement 2-3 établissements privés. Pour assurer un petit peu quelque chose de cohérent entre 2002 et 2009, comme l'ATIH augmente toujours des codes, etc., et qu'il y a éventuellement des rubriques qui, après découpage, avaient des moitiés en niveau 4, après en niveau 2, tous les codes nouveaux qui n'ont pas resté stables, on ne pouvait pas dire qu'il avait tel un même niveau depuis 2002 à 2004, à 2009, on les a éliminés. On a séparé l'évolution privée-publique, donc les ex-OQN, ex-DGF, et j'ai fait un graphique aussi en séparant selon que le diagnostic associé était une CMA V10 ou ne l'était pas, hein, puisqu'effectivement, avant, il y avait d'autres CMA, CMAS, et on verra que l'évolution du codage dépend à la fois du niveau 1, 2, 3, 4, mais aussi de est-ce que j'étais CMA en V10. Donc voici le premier graphique. c'est un pourcentage en cumulé. L'année 2002 servant de référence, donc c'est 0%, et on a donc quatre graphiques, un pour chaque niveau. Donc le premier niveau, c'est les séjours qui sont en niveau 1, les séjours de niveau 2, c'est en dessous. Prenons par exemple les séjours de niveau 4, en bas à droite. Donc en 2002, dans le secteur privé, alors privé c'est le noir, et le public c'est la courbe rouge. Donc dans le privé, en 2002, il y avait 9629, enfin 9 points pour ceux qui étaient là ce matin, 9.629 séjours en niveau 4 en 2002 dans le privé, et en 2009, il y en a donc 22 000, soit une augmentation de 130 et quelques pourcents. Hein, ça a plus que doublé pour le public. Donc on passe de 65 000 à 131 000 et on est à peu près 100% d'augmentation. Donc on voit qu'il y a une évolution assez nette des niveaux 4, 3, le niveau 2 un peu moins, puisque globalement, entre 2002 et 2009, on augmente entre 20 et 40%. Par contre, les niveaux 1, ben, il y en a moins. Il y en a plus moins dans le privé que dans le public, mais ça baisse dans les deux cas. Ça, c'est donc en cumulé. On peut se dire qu'est-ce qui se passe année par année. Et donc là, il y a les évolutions annuelles. Donc c'est le pourcentage d'évolution par rapport à l'année précédente. C'est des courbes, c'est pour faire joli, mais c'est bien les points qui indiquent les pourcentages d'évolution par rapport à l'année d'avant. Si on reprend le niveau 3 et 4 et même le 2, d'ailleurs on voit que donc la courbe du privé, du secteur privé, a un net pic en 2005, date de l'arrivée de la T2A chez eux. Donc ils ont fait un gros effort de codage. Mais que chaque année, bien sûr, il y a eu un pourcentage d'augmentation non négligeable qui est de l'ordre de au moins 5%, hein, puisqu'on a vu que le cumulé, ça montait tous les ans. Il y a des années où on fait plus et d'autres moins. Donc l'année où on a fait plus dans le privé, c'est 2005 et 2009, puisque 2005 et 2009 sont à peu près équivalents selon le niveau. En niveau 4, par exemple, le privé a fait plus d'efforts en 2009 qu'en 2005, mais pour le niveau 2, c'était plutôt en 2002. Voilà. Donc on a une évolution tous les ans. Le nombre de RSA en niveau 2, 3, 4 augmente, mais il y a des années particulièrement où ça augmente plus, et en particulier l'année qui nous intéresse ici, 2009. Donc 2009 qui est, on peut dire, presque équivalente à l'effort qu'a fait le secteur privé en 2005. Ensuite, on a regardé ce que ça donnait en fonction de est-ce que le diagnostic était ou pas un diagnostic CMA en V10. Donc, il y a trois courbes. Là, c'est uniquement le secteur ex-DGF. Il y a trois courbes. Il y a d'une part la courbe d'évolution des diagnostics qui n'étaient pas CMA V10, c'est les V10 moins en rouge. Il y a les V10 plus, c'est-à-dire ceux qui étaient CMA V10 qui sont en noir, et la moyenne qui est en vert. Comme vous pouvez le constater, dans les niveaux 2, 3 et 4, la moyenne verte est très proche du noir, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau des effectifs, les CMA V10 sont presque tous des CMA V11 et réciproquement. Même si la liste des diagnostics est différente, on en a beaucoup rajouté et pas mal soustrait, au niveau des nombres de RSA que ça correspond, bon, il n'y a pas les ajouts et les suppressions ne sont pas trop grandes. Et donc on voit nettement que la courbe rouge dans les niveaux 2, 3, 4, elle est plate, c'est-à-dire que dans les années précédentes à 2009, les efforts faits par les établissements, ce n'était pas je code tous les diagnostics que je vois, mais spécifiquement ceux qui servent à mettre dans les niveaux CMA ou CMAS, puisque ceux qui n'y étaient pas étaient restés plats, et alors qu'en 2009, comme les rouges servent effectivement au financement, tout d'un coup, ils ont monté d'une manière relativement nette. Alors bien sûr, on voit que dans le niveau 1, bien sûr, en niveau 1, il y avait quelques CMA V10 qui maintenant n'y sont plus et qui avaient une tendance à monter, mais légère aussi. Ce n'était pas des CMA, c'était des CMA de type chronique qui devait être déjà largement codé. Bon, donc, simplement à titre indicatif, hein, pour montrer les diverses hypothèses qu'on peut faire, on a regardé ce que ça donne. On sait que la France augmente son pourcentage de personnes âgées, à l'hôpital aussi, certainement, et donc on a voulu voir si éventuellement il y avait une relation entre l'augmentation des CMA qu'on observe et par exemple des évolutions du nombre de personnes âgées à l'hôpital. Parce que bien sûr, il y a un effet de codage. Il est clair que la bosse de 2005 ou de 2009, ce n'est pas un recrutement qui change. Ça serait très bizarre vu les pourcentages grandioses qu'il y a. Mais par contre, il y a peut-être un fond d'augmentation régulier qui peut provenir d'autres phénomènes plus réguliers. Donc ici, on a calculé le taux d'hospitalisation par classe d'âge, c'est-à-dire que c'est le nombre de séjours hospitaliers en fonction du nombre de personnes. Hein, par exemple, dans les 75 ans et plus, en 2008... Ah oui, on n'a pas 2009. On n'a pas 2009. Parce que l'INSEE est en retard sur le PMSI. Il y a 33 séjours de patients de 75 ans et plus pour 100 personnes. Et ce 33, il est stable depuis 2004. Hein, donc, disons, au niveau des personnes depuis 75 ans et plus... Le taux de recours à l'hospitalisation de plus de 2 jours, c'est les plus de 2 jours, hein, il est stable. Par contre, tous les autres diminuent. Ce qui fait donc qu'au niveau de ce qu'on observe, parmi les séjours de plus de 2 jours, alors bien sûr, on a enlevé la 14 et la 15, hein, les naissances et enfin, tout ce qui est autour de la naissance, on a enlevé, qui n'avait aucun intérêt pour notre problème. Déjà, les CMA ne sont pas les mêmes. Donc on voit que le pourcentage de patients de plus de 75 ans, il augmente régulièrement, passant de 28,7% à 34,2%, les autres diminuant légèrement. Donc c'est une des causes éventuelles d'un petit effet de fond qui fait qu'il est naturel que les CMA augmentent régulièrement si on admet que, disons, un patient de 80 ans de maintenant est à peu près le même qu'un patient de 80 ans d'il y a 10 ans, ce qui n'est pas nécessairement exact. Hein. Mais bon, en tout cas, le fait que ces séjours-là, de plus de 75 ans, au-delà de 75 ans, on a un taux d'hospitalisation qui reste stable à plus de 3 jours, veut dire quand même quelque chose. Donc les conclusions, c'est qu'on a une augmentation du codage des CMA de niveau 2, 3, 4 chaque année, qui est ciblé néanmoins vers cette augmentation du codage est ciblée vers les CMA et pas vers en général, enfin plutôt vers les CMA que vers les diagnostics en général. Et donc il y a des pics spécifiques pour 2005, surtout dans le privé, et 2009 dans les deux secteurs. Voilà. Merci.
J'ai analysé le codage. Alors, en comparant 2008 et 2009 pour la période de mars à septembre. Alors moi, je n'ai pas pu aller plus loin que septembre parce que, étant donné qu'il a fallu que je lise des milliers de RSA et que je fasse un travail très important, il a fallu que je prenne une période que je m'y fixe. Si j'avais voulu faire trop de mois, de toute façon, je n'aurais pas pu tirer les mêmes conclusions. Donc en fait, il s'agit surtout de tendances. Et ce qui était intéressant, c'est de trouver un petit peu les explications des variations qu'on pouvait constater. Alors, le contexte et les objectifs, c'est bien sûr la mise en place de la V11 avec des nouvelles listes de CMA et puis des niveaux qui ont été créés. C'est le fait aussi qu'en faisant le suivi très attentif mois par mois de l'évolution du codage, on avait déjà remarqué un certain nombre de choses et donc ça donnait des pistes à l'avance sur ce qu'on pouvait faire. Et puis les objectifs, eh bien, c'était d'analyser les conséquences de la nouvelle définition du DP, puisqu'en fait, on n'avait pu faire aucune simulation de DP avec la V11, puisqu'on ne savait pas ce qu'on pouvait changer automatiquement. Je voulais aussi valider le nouvel algorithme de choix du DP, analyser l'évolution du codage indépendamment de son effet sur le financement, et de vérifier l'observance des nouvelles règles. Alors, sur le plan de la méthode, j'en ai utilisé deux. La sélection des données, elles se sont faites de mars à septembre pour 2008 et pour 2009, avec des remontées de données donc, qui sont au 10 février 2010. Donc, le 10 février 2010, on a pris tous les cas remontés entre mars et septembre, et on a pris la même sélection sur 2009. Donc bien sûr, 2009 est un peu sous-estimé, puisqu'il y avait forcément des dossiers qui manquaient. Mais vous verrez que ça n'a pas une grande incidence pour ce qu'on veut montrer. On a exclu la CMD 28, on a exclu la CMD 90, sauf qu'on a gardé en V10 les GHM d'actes sans relation avec le DP. Puisqu'en fait, on n'en a plus en 2009 et il fallait qu'on les conserve pour pouvoir comparer. Ensuite, on a pris les données du secteur... les données du secteur ex-OQN, par contre, elles remontent moins régulièrement, elles sont plus en retard, ce qui fait que là aussi, il y a un petit déficit. Mais comme l'activité est beaucoup plus standardisée, je pense qu'on a suffisamment, on avait suffisamment de cas dans chaque activité courante du privé pour avoir un jugement à peu près correct sur l'évolution du codage. Et puis, il y a d'autres analyses qu'on a faites qui ne peuvent se faire que par la lecture des RSA. Et donc là, on fait une sélection automatique des RSA et puis on les lit les uns après les autres. Et on regarde ce qu'on peut en tirer. Donc ça, on l'a utilisé à la fois pour vérifier des tas de questions qu'on se posait dans la première partie, mais surtout pour valider le nouvel algorithme et puis pour comprendre donc un certain nombre d'écarts. Alors, je vais d'abord faire une présentation par chapitre de la CIM. Alors, tout ce que vous voyez là a fait l'objet d'un rapport qui sera mis sur le site la semaine prochaine. Donc, vous aurez absolument le détail. Moi, j'ai pris simplement un certain nombre d'exemples, mais vous aurez la totale donc sur un rapport qui sera mis sur le site. Et j'ai volontairement choisi les chapitres de la CIM parce que ce que je voulais voir était beaucoup plus facile à voir par les chapitres que par les CMD. Les CMD, vous savez qu'elles reprennent tous les chapitres transversaux et qu'elles les répartissent dans les CMD. Or, moi, mon souci, c'était plus de savoir est-ce qu'on a codé plus souvent les symptômes, est-ce qu'on a codé plus souvent du Z, est-ce qu'on a codé plus souvent, etc. Et je voulais voir quels étaient les chapitres. Donc là, c'est le tableau qui correspond au DP. On ne va pas le décortiquer. La seule chose qui est intéressante d'abord, on a analysé que ce qui était, ce qui avait une variation supérieure à 4%. Donc on n'a pas regardé tout ce qui était là au milieu. La première chose qui m'a inquiété dans ce résultat, c'est l'augmentation importante des symptômes en DP. Parce que on s'est dit, oh là là, ça y est, on a mal fait notre définition d'une excès principale. Tout le monde a cru que c'était le motif d'admission et non pas le motif d'hospitalisation. Donc ça, c'était la grosse crainte qu'on avait, c'est-à-dire que ça soit douleur abdominale qui soit le diagnostic principal et que l'appendicite se retrouve en diagnostic associé. Ça ne s'est pas vérifié. Donc la deuxième chose qu'on a pensé, c'est que comme il y avait une baisse équivalente dans les aides, on s'est dit peut-être qu'il y a eu un choix plus important au niveau du symptôme sur un code Z de bilan, parce que comme tous les GHM d'exploration et surveillance n'avaient pas de niveau, peut-être que les gens ont préféré passer par le symptôme quand les symptômes avaient des niveaux. Ce qui va poser un problème, probablement qu'on sera obligé d'enlever les niveaux dans les symptômes, parce qu'effectivement, on ne peut pas inciter à coder normalement le DP et le symptôme que si on n'a fait aucun diagnostic. Il n'y a pas de raison d'aller choisir le symptôme et de mettre le diagnostic après, ce qui fait qu'on sera probablement obligé d'apporter cette correction. C'est un peu dommage, mais peut-être que ce sera la seule solution. Bien sûr, sur les maladies des yeux et des oreilles, on n'a pas vu autre chose que du volume. On en était là à des choses qui étaient macro. Et on ne va pas s'attarder plus longtemps sur ces résultats. Il y a plus de commentaires sur le rapport. Alors, sur le DR, bien sûr qu'on peut se poser la question d'un coup de toutes ces valeurs négatives. J'avoue qu'on n'a pas vu d'emblée d'où ça pouvait venir, sauf qu'il n'était pas question de ne pas pouvoir l'expliquer, parce que c'était quand même trop important, surtout quand on arrive... Alors sur les causes externes, donc ça c'est pas grave, mais surtout sur les maladies osteoarticulaires, moins 62% ont commencé à se demander comment est-ce qu'on avait pu enlever autant de DR. Donc en fait, ça c'est uniquement dû au fait qu'on a supprimé la CMD28. Alors je vous le dis, pour tous ceux qui font des analyses de case mix, c'est que le Z51.2 étant passé dans la 28 et ayant quitté la 23, ça emporte des quantités monstrueuses de séjour. Donc si jamais vous vous posez la question, puisque même nous on n'a pas vu d'emblée tout de suite la raison pour laquelle on avait cette baisse considérable de DR uniquement en enlevant la 28, c'est qu'en fait il y a énormément de séances pour des affections ostéo-articulaires qui se retrouvent donc dans la 28 et non plus avant ils étaient dispatchés dans la 23. La seule chose qui m'inquiète, qui nous inquiétait un petit peu, c'était l'augmentation importante dans le seul chapitre de la CIM où on n'imaginait pas que ça puisse être un DR, c'est-à-dire la néonate. On se disait quand même, ils n'ont pas eu le temps de faire des affections chroniques, ils n'ont pas eu le temps d'avoir des maladies de longue durée. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Donc en fait, ça touche 4 établissements qui ont des pratiques de codage de mettre Z38 en DP et de mettre en DR un code de pathologie. Donc je ne suis pas allé très loin. Est-ce que c'est des établissements qui transfèrent systématiquement ou qui prennent des enfants transférés et qui donc... On dit c'est un enfant qui est né parce que je ne suis pas allé au niveau du 4e caractère, hein, j'ai tout fait au niveau des 3 premiers. Donc est-ce que c'est une pratique d'enfants qui naissent d'un côté et qui sont surveillés de l'autre? Mais c'est bizarre de mettre le DR, de mettre un code de nouveau-né. Donc ça touche 4 établissements et la moitié est faite par un seul établissement qui est une clinique privée en plus. Donc là aussi il y a peut-être tout simplement un problème de compréhension des règles de codage. Alors le plus intéressant, bien sûr, c'est celui des diagnostics associés. Là, vous voyez qu'il n'y a plus aucun négatif, il n'y a plus aucun ratio négatif, quel que soit le chapitre. Et ce qu'on a cherché à comprendre assez rapidement, c'est quand même la forte augmentation sur l'hémato et l'infectieux. Alors sur l'hémato, on savait qu'il y avait, et sur l'infectieux, qu'il y avait des nouvelles CMA, mais ça ne suffit pas à expliquer l'augmentation. Vous voyez par ailleurs que sur les causes externes, on a quand même 15% d'augmentation pour des codes qui ne rapportent rien. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur une augmentation globale du codage, pas forcément ciblée. Ça, on l'a vu tout le long, tous les niveaux d'analyse qu'on a fait. On a une augmentation globale du codage, et puis on a une augmentation un peu plus importante sur les codes, effectivement, qui rapportent, comme dit Alain. Alors sur les analyses, rassurez-vous, on va pas faire chaque chapitre de la CIM, j'en ai choisi 2 qui me paraissaient intéressants, qui est le chapitre infectieux et les tumeurs. Alors sur le chapitre infectieux, les septicémies, c'est un peu le sujet qui nous taquine, parce que les septicémies qui interviennent en termes de complications du séjour ne soient plus en diagnostic principal, alors qu'on pouvait imaginer qu'avant c'était la chose qui était le diagnostic qui était le plus lourd et qu'il était en DP. Donc que la septicémie ne soit plus en DP, ça ne nous choquait pas beaucoup. Mais que DP plus DA puisse bouger autant, ça nous gêne. Parce qu'en fait, on attendait un déversement de l'un sur l'autre. Donc il y a peut-être quand même un tout petit problème sur la façon dont on conçoit le codage de septicémie. Il n'y a pas d'équivalence, ça fait quand même, bon, c'est pas énorme en plus, mais quand même, ça n'aurait pas dû bouger de cette façon-là. Les mycoses, on a aussi une forte augmentation sur les mycoses, sur 2 catégories en tout cas où il y a des CMA qui sont nouvelles. C'est là aussi un peu bizarre que ça ne soit pas codé avant. Et puis alors là où ça devient vraiment très important, mais je pense que c'est parce que ce n'était pas une coutume de codage avant, c'est sur le code complémentaire du germe, c'est-à-dire B95, B96. Vous voyez quand même que ce 22-27% représente quand même 11 000 séjours. Ça fait 11 000 séjours qui ont donc une CMA supplémentaire avec des niveaux relativement élevés. Et puis la résistance au niveau des antibiotiques, où là on a une explosion, puisque c'est carrément 427%, bien sûr on est parti d'assez bas, mais on a surtout un souci, c'est qu'on a l'impression qu'il y a deux modes d'utilisation de ces codes U. C'est la résistance qui serait déclarée au niveau d'un antibiogramme en disant il est résistant à tel germe, et la résistance effective qui elle est un vrai sujet. Donc on va être obligé probablement d'affiner la définition pour savoir comment autoriser une utilisation correcte, ou alors faire une segmentation du code sur ces deux informations systématiques. Pour les tumeurs malignes, le souci, alors les CLCC ont eu la mauvaise idée d'être les premiers à augmenter, et d'être c'est eux qui nous ont alerté le premier sur les dépassements de recettes, parce qu'en fait ils ont une activité extrêmement ciblée, et que le comportement codage V11, qu'on a cru CLCC, mais qui s'est avéré V11, donc je rétablis la vérité. Bon, je m'étais bien gardé quand même de dire d'emblée que c'était spécifique des CLCC, ça s'est vu en premier. Les autres établissements à but non lucratif ont rattrapé les CLCC assez rapidement, les ont dépassés, les CHR ont rattrapé. Donc, mais ça s'est vu en premier. Et on a eu une réunion très intéressante avec la fédération des CLCC pour essayer de confronter un peu nos idées, pour qu'on essaye de voir si ce qu'on supposait était quelque chose de réel ou de pas réel. Alors sur l'observation, ce qui nous avait gêné, c'est qu'il y avait un ratio négatif sur tout, DP, DR, DA, donc quand il y a moins d'utilisation du code cancer sur DP, DR, DA. Et pourtant, il y avait un problème d'augmentation très forte au niveau 3 et 4. On s'était demandé qu'est-ce qu'il y a comme diagnostic sur 3 et 4. des DP au niveau 3 et 4, et on s'est aperçu par contre que c'était des DP de cancer. Donc là, ça nous a attiré l'œil, parce qu'on s'est dit, il y a quand même des raisons très particulières d'être, des règles très particulières pour être en cancer, et donc pourquoi au niveau du DP, avoir le DP au niveau cancer. Donc j'ai fait une analyse très fine d'énormément de RSA qui avaient un DP de cancer. Alors ce qui est intéressant, c'est que les quatre raisons normales d'augmentation et les trois raisons qui donnent lieu à discussion, finalement, sont les mêmes, quel que soit le sujet. Donc ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'il y a l'évolution normale de l'âge, plus les techniques moins invasives, on opère plus de personnes qui sont plus âgées, et qu'une CMA de niveau 2, qui est quand même très fréquente chez une personne âgée, fait un niveau 3 s'il y a un effet âge. Donc en fait, on a déjà pas mal de raisons d'arriver en niveau 3 avec ce mécanisme-là. Ensuite, certes, il y a une augmentation de codage des nouvelles CMA que moi je classe normale. Il y a des CMA qui sont nouvelles, donc on les code plus mieux que quand elles n'étaient pas CMA. Il y a la nouvelle définition du DP qui fait que pour la partie chirurgicale, les complications sont beaucoup plus, les complications sont dorénavant en diagnostic associé et donc font du niveau 3 et 4. Puisque les complications opératoires sont surtout du niveau 3 et 4. Et puis, il y a la recherche de la malnutrition due au recueil Calas, qui là a fait, alors je dis des dégâts entre guillemets, parce que c'est vraiment les trois recherches dues au système Calas, c'est-à-dire la recherche des escarres, la malnutrition et les chutes à répétition, sont pas quand même par hasard les trois CMA qui ont le plus augmenté. Donc ça veut dire aussi que plus on trouve et plus on code. Alors les trois motifs qui peuvent donner lieu à discussion, il y a le problème des soins palliatifs. Alors moi j'avais fait que deux hypothèses et puis ce matin il y a eu une présentation qui m'en a fait faire donc une troisième. Donc je ne reviens pas sur celle de ce matin qui n'était pas une de mes hypothèses, qui était de dire que les patients viennent et puis ils ont des soins palliatifs en tant que au cours du séjour parce qu'ils se compliquent. Parce que moi, dans ce que j'ai lu, j'ai eu l'impression qu'il y avait au moins deux autres causes. Il y en a une qui me paraissait un peu claire, c'était le contrôle d'assurance maladie qui avait fait que beaucoup de personnes ont dû reculer sur le codage des soins palliatifs à chaque fois que dans le dossier, il n'y avait pas tous les critères émis par l'assurance maladie. Je rappelle que ce n'est pas nous qui avons fait des définitions sur les soins palliatifs. Mais il y a quand même un certain nombre d'indices qui laissaient aussi penser que c'était un peu un choix volontaire, parce que quand on est en dessous de la borne basse dans les soins palliatifs, c'était plus intéressant d'être éventuellement au niveau 3 ou 4, parce que vu l'état des patients, c'est assez facile d'y être, en étant dans le GHM avec le DP du cancer, et de coder donc les soins palliatifs en diagnostic associé. Je vous livre toutes nos hypothèses, dans la mesure où elles se sont quand même un peu vérifiées, mais je ne suis pas capable de donner les taux exacts de ce que ça représente. On voit bien que tout le monde est intéressé dans le codage, et faire en sorte que quand même on ne perde pas l'argent et qu'on en gagne. Alors, pour clore ce chapitre-là, je dirais que dans les autres catégories, je voudrais simplement signaler donc celles qui sont issues de Calas, je viens de le dire, ça c'est acceptable. Ce qui est plus discutable, c'est pour nous c'est un vrai sujet, c'est les surveillances de stomie ou les accès vasculaires, le Z de surveillance de stomie et d'accès vasculaire qui sont mis dans le même séjour que l'intervention. Ce sont les hémorragies compensées, les épanchements habituels qui sont codés. C'est-à-dire qu'on a énormément d'anémies post-hémorragiques dans toute la chirurgie de la hanche, toutes les chirurgies qui saignent, alors qu'en fait il y a une compensation au niveau péropératoire et donc ça devrait être dans le tarif. Il ne faut pas oublier que nous on a fait des hypothèses que c'était une CMA, que si ça augmentait soit la durée de séjour soit les coûts. Donc ça nous pose un peu un problème. Et puis des syndromes post-cholécystectomie, post-gastrectomie, je ne suis pas chirurgien, je me suis quand même un peu renseigné, ce n'est pas quelque chose qui vient dans le même séjour que l'intervention. Donc quand on a ces codes-là dans la même intervention, on se dit que ça peut être utilisé pour le moindre P de travers au cours de la surveillance post-opératoire. Donc simplement, on va regarder de façon plus proche. Alors sur les variations qui sont dues au changement de règles, eh bien, je pourrais dire que les consignes de codage, elles ont été suivies. Pour les polysomnographies, on trouve, et les enregistrements de longue durée, on trouve toute la mécanique, c'est-à-dire l'augmentation importante du Z qu'on a demandé de mettre pour être dans la même CMD, l'augmentation des DR de façon très importante avec les motifs de ces examens, et puis, je ne parle pas de la troisième, enfin bon, c'est correct. Sur les codes Z et les codes d'antécédents, ça a été... ça aurait dû augmenter plus qu'on ne le pensait, ça n'est pas le cas. Donc c'est là que je pense que les symptômes ont plutôt été pris comme option. Et puis les modifications, par exemple, d'un code, ça c'est intéressant parce qu'on a cherché pendant un moment pourquoi R19.5 avait une telle augmentation alors que le libellé c'est anomalie des matières fécales et que je vous fais le luxe de vous mettre le détail de ce qu'il y a en dessous, mais je vous garantis que c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Tout d'un coup, il y avait une augmentation fantastique. Et en fait, c'est dans les modifications de l'OMS où il y a eu un ajout qui était présence occulte de sang dans les selles. Et là, il y a eu une explosion de CDP, probablement parce que c'est un motif d'endoscopie. Ce qui nous a gêné, c'est qu'on n'a pas trouvé à quoi ça se substituait, c'est-à-dire que les hématémèses, les hémorragies, etc., diminuent pas pour autant. Donc, c'est vrai qu'on a eu quelques craintes. Oui, non, je suis d'accord, mais il n'y avait pas de raison que ça fasse une telle augmentation par rapport à l'année d'avant. Enfin bon, c'est vraiment très important qu'augmentation, donc ça, c'est quand même important. Ça ne me paraît pas complètement justifié. Sur la validation du nouvel algorithme, donc c'était uniquement par lecture de RSA, on va passer assez rapidement. Donc sur les résultats globaux, ce qui est intéressant déjà, c'est que 50% des RSA avaient le même diagnostic sur tous les rhumes. Alors je vous rappelle que la meilleure façon de maîtriser son diagnostic principal, c'est de mettre le même diagnostic sur tous les rhumes. Et que c'est parfaitement licite et c'est parfaitement réglementaire de le faire pour toutes les combinaisons médecine-chirurgie-médecine, pour toutes les combinaisons chirurgie-réanimation-chirurgie, pour toutes ces combinaisons qui font qu'on est sur le partage d'un même motif d'entrée, d'un même suivi. Vous avez parfaitement le droit de remettre le diagnostic, même si on estime qu'au troisième morceau, il n'existe plus. C'est bien la prise en charge, c'est bien la totalité de la prise en charge. Donc je le redis parce que c'est important et ça touche déjà énormément de cas. Ensuite, sur ce qui reste, on en a une bonne partie qui sont avec l'habitude d'aller mettre un Z48 sur le dernier morceau. C'est là que je dis que ça ne sert pas à grand-chose, mais enfin bon, ça ne dérange pas non plus l'algorithme puisqu'il n'est pas prioritaire sur le diagnostic. Voilà, donc en revanche, on a... Et puis, alors, bon, il y avait 3 RSA, effectivement, sur 250, où la cohérence aurait été différente, mais vous verrez, il y a plus de détails sur le rapport, je vais passer. Alors, sur l'algorithme, notre vraie difficulté, c'est tous les premiers rhumes qui ont moins de 2 jours, voire 100 nuitées, parce que ça, c'est assez catastrophique. C'est des diagnostics où on sait qui ne sont jamais infirmés, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a 2 attitudes. Soit on met le symptôme, soit on met carrément la maladie suspectée qui ne se trouve pas confirmée, mais elle sert quand même de diagnostic associé et donc elle sert de CMA. Enfin, on a un vrai, vrai souci. Et là, je ne sais pas comment sur le plan réglementaire, ce serait un bon sujet pour Joël, de savoir comment on peut limiter et trouver des astuces pour limiter ces séjours inférieurs à 0 qui sont une catastrophe, enfin, sans nuitée, qui sont vraiment une catastrophe pour l'algorithme. Je ne dis pas que c'est nécessaire, je dis que pour l'algorithme, c'est vraiment une catastrophe. Et c'est pourtant, on ne peut pas s'en passer, parce qu'on a au sujet inverse, c'est-à-dire que quand c'est dans les crises, c'est l'inverse. Là, l'algorithme dérape un peu par rapport à la définition du DP, parce que la crise étant passée, par exemple, sur l'asthme, l'épilepsie, l'ivresse, la plupart des gens, ils sortent très rapidement. Quand vous les gardez, ce n'est pas vraiment en général pour l'ivresse, l'asthme ou l'épilepsie, c'est pour un problème connexe, qui lui, du coup, ceux-là, ils vont disparaître des diagnostics, des DP, des séjours d'après, des rhumes d'après, et du coup, le rhume principal... Il est, quand vous faites en multirhume, ce que Toudim aimerait bien mettre quand c'est en monorhume. Ce qui fait qu'on est un petit peu gêné aussi. Voilà, donc en conclusion, le suivi attentif des remontées a permis de prévoir, enfin, a permis de comprendre beaucoup le suivi des remontées nous a permis de prévoir des règles déjà pour l'année N+1, donc c'est pour ça qu'il y a eu des règles qui ont été faites déjà pour 2010, en voyant ce que sur certaines dérives de l'année 2009. La majorité des variations de codage sont faciles à comprendre. Les nouvelles règles et consignes sont globalement appliquées. Le nouvel algorithme de choix est plutôt bon. L'augmentation du codage est d'abord quantitative avant d'être qualitative. Il n'y a pour moi pas de preuve évidente de surcodage, mais la modification de la définition du DA a probablement fait du jeu code tout. On a beaucoup pensé à toi, Bernard, toute l'année, parce que tu as obtenu quelque chose qu'on a beaucoup regretté. Mais bon, c'est fait. Je pense quand même que l'assouplissement qu'on a fait que plus personne réfléchit et que du moment que c'est présent, on le code. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que quand tu dis vous avez qu'à mouliner tout seul pour les enlever, ceux qui ne servent à rien, c'est impossible. C'est pas vrai. Tu ne peux pas distinguer dans un index associé celui qui a été pris en charge et celui qui n'a pas été pris en charge quand on est à des milliers de kilomètres de l'information et qu'on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Voilà, et donc il y aura des conséquences prévisibles sur les CMA et puis le rapport sur le site qui sera mis la semaine prochaine. Merci.
Bonjour à tous. Peut-on identifier donc des niveaux de preuves, des diagnostics enregistrés dans les résumés d'unités médicales, donc en particulier quand le diagnostic est réalisé au cours du séjour? Donc ça renvoie à la question générale, donc qui dépasse le PMSI, qui est si important dans toute science, toute connaissance, de la notion de que peut-on savoir. Donc c'est une des trois questions principales de la philosophie, et ça renvoie à la théorie de la connaissance. Que peut-on connaître avec un certain degré de certitude? Et dans cette théorie de la connaissance, donc il y a la théorie de la justification. Donc dans cette théorie, la justification, donc une donnée fait partie de la connaissance, donc de la science, si elle est vraie et si elle est justifiée. Donc justification, comment prouver une vérité, donc ici, comment un diagnostic vérité peut être prouvé. Donc cette théorie de la justification est utilisée dans la médecine déjà. Donc il y a au moins deux exemples importants. Donc la gradation des recommandations qui repose sur cette théorie, donc preuve scientifique établie s'il y a plusieurs études avec une méthode correcte et qui sont convergentes. Donc la présomption scientifique, s'il y a moins de tout ça, et le faible niveau de preuve scientifique. De même, donc, il y a le mouvement de la médecine fondée sur les preuves ou sur les faits, evidence-based medicine, donc pour les anglo-saxons. Voilà, comment on retrouve également ces éléments, donc dans la réglementation, code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, donc c'est un élément de preuve pour l'exécution d'une obligation, et puis donc ils définissent les moyens donc d'apporter la preuve de cette obligation. Alors, où rechercher les preuves dans le PMSI? Donc là, c'est défini par l'arrêté du 31 décembre 2003. Donc, les informations du résumé médical doivent être conformes au contenu du dossier du patient. Donc, on doit retrouver dans le dossier du patient qui concerne le séjour, enfin, pas forcément uniquement, les informations qui permettent d'apporter donc la preuve des informations présente dans le résumé d'unité médicale. Voilà, et d'autre part, donc il y a un élément qui est dans le guide de production des informations, c'est donc vérifiable dans le cadre des procédures de contrôle. Ah, donc voilà ce qu'on peut synthétiser. Donc un diagnostic, notamment donc quand il est réalisé au cours des séjours, doit, si possible, pour le mieux, donc être mentionné dans un élément du dossier médical, hein, pas forcément le compte-rendu d'hospitalisation, quoique ça serait souhaitable, mais donc dans un des éléments du dossier médical qui correspond au séjour, et donc doit, si possible, être étayé. Voilà, donc ça fait quatre possibilités, hein, mentionné, étayé, non mentionné ou non étayé, et puis non mentionné et non étayé. Donc le premier cas, qui est donc le meilleur cas en quelque sorte, donc avec un niveau de preuve élevé, donc le compte-rendu d'hospitalisation ou la lettre de sortie ou l'observation médicale, donc un élément écrit donc du séjour, mentionne le diagnostic, et directement le clinicien l'étaye. Donc c'est ce qu'on peut retrouver hein, dans des comptes rendus en particulier. Donc là j'ai pris un exemple qui est facile. Hein. Donc anémie, et ils indiquent donc le taux d'hémoglobine, le nombre de grammes d'hémoglobine à la numération formule sanguine. Donc et normalement on doit retrouver la numération formule sanguine dans les pièces. Donc là, il n'y a pas de doute. Le clinicien, en plus, a donné le critère et on retrouve le critère dans les pièces. Ce qui est aussi à peu près équivalent, c'est donc que le clinicien mentionne le diagnostic et il est facilement retrouvé dans les pièces les éléments de preuve. Donc on retrouve, mettons dans le compte-rendu d'hospitalisation, qu'il y a eu une anémie diagnostiquée, et une des pièces donc, est une numération formule sanguine avec une hémoglobine en dessous des critères habituellement donc, défini pour l'ennemi. Voilà donc ce qui semble souhaitable. Donc, les cas numéro 2 et 3, en fait, c'est les deux cas où on a soit l'un, soit l'autre. Donc, la première chose, c'est les éléments du dossier ne mentionnent pas véritablement le diagnostic, bien qu'on le retrouve dans le résumé d'unité médicale. Néanmoins, le diagnostic est étayé dans les autres éléments du dossier. Alors, donc il y a la question. Tout médecin, enfin la plupart des médecins, tout médecin va considérer que le diagnostic est étayé. Donc là, l'exemple donné, donc il n'y aura sans doute aucun doute. Ça pose la question, donc pourquoi ça n'a pas été mentionné? Donc ça renvoie à différentes raisons. Hein. Soit c'est un oubli, tout simplement. Il peut y avoir des choses, l'examen est peut-être arrivé tardivement, où il y a peu de prise en charge, disons, le séjour ne s'est pas trop orienté vers cette prise en charge, ce qui renvoie donc à ce qui a été présenté avant, donc sur les diagnostics associés, puisque si on peut penser pour le diagnostic principal, donc des moyens importants, et puis donc c'était un objectif d'atteindre ce diagnostic, on peut penser qu'il est plus facilement marqué, mentionné, et même à différents endroits, alors que pour un diagnostic associé, peut-être ça mobilisait moins de moyens, c'était peut-être pas la préoccupation essentielle du séjour, et donc on le retrouve pas. Néanmoins, ça peut quand même poser des problèmes éventuellement d'interprétation du dossier. Le troisième, c'est le compte-rendu d'hospitalisation où un élément important du dossier écrit mentionne le diagnostic. Par contre, on ne retrouve pas les éléments de preuve dans les éléments du dossier, ni écrit, ni dans les pièces. Donc, ça peut être donc un oubli de la pièce dans le dossier médical. Mais c'est quand même un dossier qui va poser problème. C'est-à-dire, si c'est noté, pourquoi on n'a pas ces éléments? Voilà. Et donc, en particulier, hein, puisqu'on a parlé des diagnostics associés. Donc, le cas numéro 4, celui-là ne pose pas problème, quoique. Pour un diagnostic donc noté dans le résumé de séjour, on ne trouve donc ni le diagnostic ni les éléments du dossier. Donc là, est-ce qu'il y a un oubli important? Est-ce que ça a été noté peut-être un peu vite sur le résumé d'unité médicale? Voilà, mais je pense que là il n'y aura pas de discussion. Donc, ce qui fait qu'on peut proposer hein, donc une certaine gradation, on avait vu les gradations, les recommandations, une certaine gradation dans le niveau de preuve du diagnostic indiqué dans le résumé d'unité médicale. Donc, le niveau 1, le diagnostic est mentionné, est étayé, donc c'est correct, c'est l'équivalent de la preuve scientifique établie. Donc, a priori, pas de discussion possible. Donc, le niveau 2, il y a quand même une forte présomption, à condition que les éléments soient, que ça ne soit pas un diagnostic qui pose éventuellement problème, que les critères soient, en général, communément admis par tous. Le niveau 3, c'est peut-être une question qui peut interroger un peu les médecins d'information médicale ou les techniciens d'information médicale, c'est peut-être d'aller demander aux cliniciens s'il n'a pas des éléments qui peuvent étayer le diagnostic qui a été indiqué donc dans le résumé d'unité médicale et qui est mentionné dans une des pièces du dossier. Ça peut être quand même un oubli. Si c'est pas un oubli, peut-être c'est à réviser. Enfin, le niveau 4 n'est pas du tout acceptable, mais puisque là, il est en contradiction avec l'arrêté du 31 décembre 2003 modifié. Ah, donc il y a la question des critères. Donc sur quels critères étayer un code diagnostique, donc noté dans le résumé de ces jours. Donc essentiellement donc sur les éléments cliniques et paracliniques présents dans le dossier médical. Donc j'avais parlé donc la numération formule sanguine et donc du taux d'hémoglobine. Alors la question de la prise en charge réalisée, donc c'est sans doute moins acceptable. Ça peut être acceptable pour ce qui est de la chirurgie. C'est vrai que quand le diagnostic est fait pour fracture de hanche et il y a une prothèse de hanche ou une ostéosynthèse qui est réalisée, bon, ça posera pas de problème. Mais en médecine, c'est beaucoup plus incertain. Et alors, quels critères retenir à l'absence de critères explicites du clinicien? Donc là, c'est la question des données acquises de la science médicale. Donc, normalement, c'est un élément du code de déontologie. Donc, on doit se référer à ça, en sachant que ça peut être objet de discussion. Notamment, où se trouvent donc les références à utiliser quand ces références ne sont pas largement partagées, comme pour le cas, par exemple, d'une anémie. Voilà, donc conclusion, hein, donc à trite au moins préventif hein, d'éventuels désaccords en cas de contrôle, mais aussi pour une meilleure qualité de l'information médicale et peut-être aussi pour un meilleur reflet donc d'une meilleure qualité médicale elle-même. Donc quand un diagnostic est enregistré dans résumé d'unité médicale, donc diagnostic principal mais aussi surtout dans le diagnostic associé, serait nécessaire de s'assurer que ce diagnostic est à la fois mentionné et étayé dans le dossier médical du patient. Je vous remercie.